Bonjour Laurent Jacobelli.
Bonjour Frédéric Rivière.
Depuis dimanche, la France met les petits plats dans les grands pour recevoir le président chinois. Selon vous, la Chine est-elle un partenaire commercial ou un prédateur?
Ah, c'est une bonne question. Est-ce que la Chine est un prédateur ou est-ce que nous nous sommes toujours comportés comme une proie pour un prédateur? Je pense que dans les relations commerciales qu'on a eues avec la Chine, on a été longtemps soit d'une naïveté, soit d'une imprudence presque coupable. À chaque fois qu'on faisait un accord commercial avec la Chine, on leur donnait notre technologie, nos plans, notre savoir-faire. Ben, c'était une condition imposée par la Chine. Je pense qu'aujourd'hui, notre devoir, c'est de continuer d'avoir des relations commerciales avec la Chine, bien sûr, qui est un grand marché, mais de mettre en place une vraie réciprocité, qu'on joue avec les mêmes règles du jeu. Ce qui n'est plus acceptable, c'est que la Chine protège son territoire des importations et que nous, nous ouvrions aux quatre vents le nôtre. Ce qui n'est plus supportable, c'est que la Chine n'ait pas les mêmes normes environnementales et sociales que nous et qu'elle importe ses produits librement alors que nous, on impose à nos entreprises des taxes, des normes, charges sociales qui, pour la plupart d'ailleurs, sont souvent nécessaires et utiles. Il faut sortir de cette naïveté et avoir un rapport d'égal à égal, ça va peut-être vous surprendre, avec la Chine. On doit arrêter de se laisser envahir par les produits chinois.
Mais est-ce que la France peut avoir elle-même une relation d'égal à égal avec la Chine, ou est-ce que ça ne peut se passer qu'au niveau européen ?
Non, ça peut pas simplement être une question européenne. Ça fait partie des domaines où, bien sûr, à plusieurs, on peut être plus fort. Mais la France elle-même a les moyens, aujourd'hui, de négocier avec la Chine. Quand on prend, par exemple, Airbus, la France a un rôle majeur à jouer. Quand on voit que la Chine, sur le territoire français, rachète à tour de bras les forêts, les vignobles, là aussi, on a un pouvoir de négociation. Et puis, vous savez, en Europe, la Chine a un pouvoir commercial déjà très fort avec l'Allemagne, par exemple. Parce qu'on parle souvent de la relation commerciale franco-allemande. Mais la Chine est le premier partenaire commercial de l'Allemagne, déjà. Donc vous voyez, ça dépasse la question européenne. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est qu'on crée des règles du jeu qui soient d'égal à égal, qu'on joue avec les mêmes règles. Ce qui n'est pas le cas, on se met nous-mêmes en position de faiblesse. Vous savez, la Chine est en position de conquête commerciale. Il l'assume d'ailleurs avec le route de la soie. Nous, on est en position d'abandon. On a l'impression qu'on ne sait plus faire d'industrie. On a l'impression que nos services publics doivent être vendus à la découpe, notamment à la Chine, comme on l'a vu malheureusement avec l'aéroport de Toulouse. Il faut rebattre les cartes et changer les règles du jeu.
La 19e journée de mobilisation des Gilets jaunes samedi dernier n'a pas connu de violence importante. Est-ce que vous diriez que Christophe Castaner a trouvé la bonne méthode pour dissuader les casseurs?
Non, pas du tout. Je dirais que Christophe Castaner a déplacé le problème. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de Black Bloc à Paris, mais il y en a eu ailleurs. Quand vous regardez les images des manifestations à Montpellier, vous verrez que les premiers rangs du cortège de manifestants, c'était les Black Blocs cagoulés, masqués, habillés de noir. La politique qui est d'amener l'armée pour contrôler un mouvement d'opposition finalement au gouvernement est une technique inquiétante qui donne un symbole politique, qui envoie un symbole politique, qui est un symbole qui nous éloigne chaque jour un peu plus d'une démocratie apaisée. Et puis les vraies solutions, elles ne sont pas sécuritaires. Moi je m'inquiète et de voir la politique du bras d'honneur que fait Emmanuel Macron aux Gilets jaunes.
Le grand débat, ça n'est pas à proprement parler un bras d'honneur, c'est un temps de réflexion.
Non, le grand débat, c'est je vais reprendre une expression que tout le monde emploie, mais c'est de l'enfumage. Quand vous avez les Gilets jaunes qui disent on en a marre du matraquage fiscal et qu'au gouvernement, chaque jour, on a une nouvelle idée de taxe, quand les Gilets jaunes réclament plus de justice sociale et que le gouvernement répond baisse des indemnités chômage et allongement des durées de cotisation retraite, quand la population demande plus de démocratie et que le gouvernement dit on va vous envoyer l'armée. Non, franchement, je maintiens, c'est une politique de provocation.
Envoyer l'armée, c'est un peu caricatural. Vous savez que l'opération Sentinelle a été sollicitée pour protéger des bâtiments.
Vous savez comme moi que tout est symbole en politique et que la décision du gouvernement de mettre l'armée dans les rues de Paris n'était pas une décision liée à la sécurité, parce que franchement, entre vous et moi, ça ne sera pas très utile. Et puis, c'est pas le métier de l'armée. C'était un symbole très clair.
Oui. Laurent Wauquiez, le président des Républicains, propose la mise en place d'un Nuremberg des djihadistes, un tribunal pénal international pour juger les combattants européens de l'État islamique capturés afin, dit-il, d'éviter tout retour en Europe. Est-ce que c'est une idée que vous pourriez soutenir?
Bon, écoutez, c'est une idée, il montre les muscles, c'est bien, Laurent Wauquiez, mais je crois qu'on n'a pas besoin d'un tribunal international. Il suffit que la France soit ferme et qu'on ait une règle claire. tous ceux qui ont brûlé leur passeport pour faire la guerre à notre civilisation, à nos valeurs et à la France, qui sont partis en Syrie ou en Irak, ne doivent, sous aucun prétexte, jamais rentrer. Je vous signale que Madame Belloubet, comme ça, au détour d'une interview chez vos confrères, a dit qu'il y avait déjà 210 djihadistes rentrés en France et qu'ils étaient surveillés. On nous avait promis au départ qu'ils seraient emprisonnés. Alors, on vient d'apprendre qu'ils n'étaient pas emprisonnés. Ça veut dire qu'ils sont dans les rues. Et ils sont surveillés par le même gouvernement qui est incapable de surveiller et d'arrêter les Black Blocs. Tout cela est très inquiétant. Il y a donc 200 bombes à retardement dans les rues françaises, en sachant que d'autres radicalisés, je crois que c'est 450, vont sortir de prison cette année. La situation est très inquiétante. Le laxisme du gouvernement est très inquiétant. Et on parlait tout à l'heure de Monsieur Castaner. Je pense que le duo Castaner-Belloubet montre là sa naïveté, son laxisme et ses limites.
Les sondages pour les élections européennes vous donnent à touche-touche, avec la liste de la majorité, 22% pour vous dans l'un des tout derniers, 23% pour La République En Marche. Est-ce que être devant, être en tête, est pour vous une priorité? Est-ce que c'est primordial?
Oui, c'est important. C'est important parce que d'abord, nous défendons une vision de l'Europe que nous avons envie de voir gagner en France, comme elle a gagné en Italie, en Autriche, dans beaucoup de pays de l'Est, c'est-à-dire cette Europe des nations libres qui travaillent entre elles quand elles en ont envie et quand elles en ont besoin, et non pas une Europe qui force 27 pays à faire tout ensemble tout le temps. On a vu que ça ne marchait pas. Et puis, il y a une deuxième raison. Si Emmanuel Macron arrive en tête, mais alors il va se croire tout permis. Je plains les retraités après le 26 mai si Macron arrive en tête. Je plains les chômeurs si le 26 mai Macron arrive en tête. Je plains tous ceux qui gagnent moins de 2000 euros net par mois. Je plains beaucoup de monde. Et puis surtout, quelle tête de liste que Nathalie Loiseau. On peut en parler quand même.
J'allais vous le demander, ce que vous pensez de ce tandem, donc Nathalie Loiseau, Pascal Canfin, pour conduire la liste La République En Marche.
Écoutez, Nathalie Loiseau, il suffit de lire son livre. Hein. D'abord, elle parle beaucoup d'elle en disant qu'elle était première de la classe, qu'elle était surdouée, qu'elle n'avait pas besoin de travailler pour être la première. Bon, c'est toujours une vision très macronienne, finalement, hein, de l'estime de soi. C'est quelqu'un aussi qui définit l'identité nationale comme une notion au relent putride. Voilà, je laisse vos auditeurs réfléchir là-dessus. Et puis, Monsieur Canfin, à la soupe. Hein, il a été écologiste. Aujourd'hui, je ne sais pas, il se cherche une deuxième carrière. Alors, c'est vrai que La République En Marche est un peu, comment dirais-je, le parti de la deuxième chance pour des politiciens un peu mis sur la touche. Bah, écoutez, voilà, nous verrons bien. En tout cas, on se battra sur le programme. Il y a deux listes qui sortent des sondages. Vous l'avez dit, c'est La République En Marche et la nôtre. Parce que c'est les deux visions, finalement, claire et cohérente de l'Europe, voilà. Alors différente, mais cohérente, mais ultra-fédérale d'un côté, mondialiste, et l'Europe des nations et des peuples d'une autre.
Mais l'enjeu de cette élection, ou de ces élections, il sera plus national qu'européen pour vous ?
Il sera bien évidemment européen. On est à un moment très important où beaucoup de peuples se réveillent en Europe, où la modernité aujourd'hui, c'est la nation. C'est plus cette Europe fourre-tout fédéraliste qu'on nous vendait. Donc voilà, non, je pense qu'il y a un vrai enjeu européen et puis il y a un vrai enjeu français aussi, puisque Emmanuel Macron a refusé les législatives anticipées alors que les Français ne veulent plus de sa politique. Eh bien, l'occasion de lui dire non merci Monsieur le Président, on n'en veut plus, ce sera aussi le 26 mai aux européennes.
À propos d'élections, il n'y aura pas de candidat du Rassemblement National au municipal de 2020 à Paris. Le Front National a toujours fait des scores assez faibles à Paris. Est-ce que c'était pour autant une raison pour renoncer à ce combat?
Oh, moi, je ne parlerai pas de renoncement. Vous savez, au Rassemblement National, avec Marine Le Pen, depuis la refondation, nous parlons de rassemblement. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons changé de nom. Eh ben, rassembler, c'est aussi s'allier à d'autres. Alors, c'est vrai que la plupart du temps, nous prenons la tête de liste, parce que nous sommes très souvent le parti d'opposition qui arrive en tête. À Paris, ce n'est pas le cas. Donc, ce rassemblement se fera autour d'autres personnes, d'autres personnalités. Mais le but est le même. Le but est le même, ce sera de protéger les Parisiens, de faire en sorte qu'on vive mieux à Paris et puis de sortir de la politique délétère et terrible de Madame Hidalgo.
Merci Laurent Jacobelli.
Merci à vous.
Bonne journée.